kelen tontot.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load, l'émission qui chaque semaine vous propose un petit tour d'actualité, enfin un petit tour d'horizon plutôt de l'actu métal. Alors inutile de vous préciser, vous le voyez par vous-même, que les fêtes approchent, Noël approche et par conséquent les sorties d'albums vont se faire un petit peu moins nombreuses. Donc pour ce vendredi 15 novembre, j'ai pas 36 000 trucs à vous proposer. Je vous ai quand même fait une petite sélection de deux albums qui sortent aujourd'hui, et puis ça va aussi nous permettre eh bien, de revenir sur deux sorties qui ont eu lieu les précédentes semaines, fin octobre, et puis aussi de se projeter en avant avec la sortie la semaine prochaine du nouvel album du groupe français Hypnose. Et ça tombe bien puisque Hypnose sera en interview tout à l'heure dans cette émission pour nous présenter ce nouvel album donc qui va arriver la semaine prochaine, qui s'appelle Distant Dark Source. Et on aura Manu au téléphone, donc qui est le chanteur-guitariste du groupe, qui en est aussi le compositeur, qui va nous raconter un petit peu eh bien, l'aventure de ce concept album qui est tout particulièrement réussi, donc restez bien avec nous. Et puis en fin d'émission, eh bien, vous retrouverez la rubrique Sortez Cover, la rubrique de conclusion qui chaque semaine vous propose une reprise. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller dans les années 90, ça va nous changer un petit peu des années 80 qui reviennent très très souvent quand même. Voilà, vous avez un peu eu un aperçu du programme. Eh bien, ce que je vous propose, c'est maintenant de lancer directement les hostilités. Et les sorties du jour, eh bien, elles sont toutes les deux placées sous le signe du hardcore. Et la première, eh bien, c'est du hardcore suédois avec le groupe Raised Fist qui sort aujourd'hui l'album Anthems. Raised Fist, c'est un groupe qui nous vient de Luleå, qui a été fondé en 93. Il a été créé entre autres par le chanteur Alexander Hagman et le bassiste Andreas Johansson. Ce sont d'ailleurs les deux seuls membres fondateurs qui sont encore présents. Et puis à noter que le nom du groupe, il fait référence à la chanson Know Your Enemy de Rage Against the Machine, dans laquelle on peut entendre la phrase Born with an inside and a raised fist. Voilà d'où vient le nom du groupe. Alors, Raised Fist, c'est du punk hardcore qui est très influencé par la scène new-yorkaise des années 80, plus particulièrement par des groupes comme Gorilla Biscuits ou Youth of Today. Raised Fist, qui a lui-même été une influence très importante pour pas mal de groupes, dont FTX. FTX, qui dans les années 2000 était le fleuron de notre scène hardcore neuversoise. À cette même époque, le bassiste du groupe, hein, qui s'appelle Dom, eh bien, il organisait pas mal de concerts dans les environs, et parfois il a fait jouer des groupes de renommée internationale, comme par exemple Madball, hein, qui était passé à Sauvigny-les-Bois. C'est quand même des légendes du hardcore made in New York. Et parmi les groupes qu'il a fait jouer, il y a eu justement Raised Fist, qui a joué plusieurs fois à Nevers. La dernière fois, il me semble que c'était Canardage Assaut qui les avait fait venir au Café Charbon. Pour ce qui est de la discographie du groupe, donc après deux EP, Race Fist sort son premier album qui s'appelle Fuel, on est en 98. Depuis, le groupe a étendu sa palette de disques qui se compose de 7 albums studio à l'heure actuelle, dont les deux avant-derniers, Veil of Ignorance en 2009 et From the North en 2015, eh bien, ont connu un succès très important en Suède, et d'ailleurs dans le reste du monde, ils ont été aussi largement salués. Donc, qu'en est-il aujourd'hui pour Race Fist ? Eh bien, c'est la sortie du nouvel album Anthems, sur lequel, eh bien, le groupe poursuit l'évolution impulsée par les deux albums précédents avec un enthousiasme et une application absolument incroyable, alors notamment en matière de production, mais sans pour autant renier ses racines hardcore, hein, celles qui ont forgé la réputation des Suédois. Selon le chanteur Alexander Hagman, Anthems est le premier album du groupe où le traitement de la batterie et du chant a profité du même investissement que le reste de la musique et des mélodies, et ben c'est vrai que ça saute clairement aux oreilles, même si Race Fist a quand même encore une fois pas privilégié le son au détriment de l'efficacité, car Anthems est sans conteste malgré tout un album qui est taillé pour le live et pour faire slammer les foules avec des titres qui sont instantanés, qui sont imparables, c'est vraiment très réussi. Et on voici tout de suite la preuve en musique avec justement le morceau titre Anthem. C'est tout de suite sur Bike FM, on écoute Race Fist. À l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Anthem, extrait de l'album Anthems qui sort aujourd'hui. Groupe Race Fist, issu de la scène suédoise, scène hardcore, influencée new-yorkaise quand même. Mais il faut avouer qu'en Suède, on sait faire de la musique, que ce soit du punk, du rock, du metal ou du hardcore. Voilà, c'est un pays où on est très très fort, musicalement parlant, une scène rock très très riche, très variée. Et ça fait du bien, Race Fist, à l'instant sur Bike FM, que vous avez peut-être vu en concert à Nevers ou dans les environs il y a quelques années. On reste sur la même esthétique musicale, mais on va cette fois-ci aux États-Unis avec le groupe Lionheart qui sort également aujourd'hui un nouvel album. Un album qui s'intitule Valley of Death. Alors Lionheart, ils nous viennent de Californie, d'Oakland précisément. C'est un groupe qui existe depuis 2004. Alors attention, il faut pas les confondre avec un autre groupe qui s'appelle Lionheart, qui est un groupe de hard rock britannique qui est né dans les années 80. Là, c'est bel et bien le groupe américain Lionheart, né dans les années 2000. Et c'est un groupe d'ailleurs qui n'a rien à voir avec le hard rock, puisqu'on est sur du punk hardcore aux sonorités metalcore, qui puise ses influences chez des groupes tels que Blood for Blood, Madball, Terror, Cro-Mag ou encore Hatebreed, dont le chanteur Jamie Jasta a joué un rôle primordial dans la carrière de Lionheart, puisque c'est lui qui les a repérés et qui les a signés sur, à l'époque, son label Stillborn Records. Alors justement, venons-en à la discographie de Lionheart. Après un premier EP, le groupe va faire une entrée fracassante au sein de la scène hardcore californienne avec un premier album qui s'appelle The Will to Survive, qui paraît en 2007. Le combo, qui tourne alors quasiment non-stop, va enchaîner ensuite avec Bulton Struggle en 2011 et Undisputed en 2012, avant de s'accorder un petit break pour mieux revenir avec le retentissant Welcome to the West Coast. Ça, c'est en 2014. Alors, c'est pas un album, c'est un EP, mais un EP qui va faire date et qui va asseoir définitivement la déjà très solide réputation des Californiens, qui vont ensuite dégainer en 2016 l'album Love Don't Live Here, avant d'annoncer la surprise générale l'année suivante qu'ils se séparent. Alors, évidemment, la séparation, elle sera éclair, puisque Lionheart va sortir fin 2017 Welcome to the West Coast 2, donc moins d'un an après, un petit peu plus d'un an après, et ce Welcome to the West Coast 2, en fait, c'est la suite de son fameux EP qui était paru en 2014, que je viens d'évoquer. Un cinquième album donc pour le combo, qui repartira alors pour 2 ans de tournée intensive à travers la planète. Un rythme effréné qui les a pas empêchés de reprendre le chemin des studios pour mettre en boîte ce fameux Valley of Death qui paraît aujourd'hui et qui s'impose comme l'album le plus éprouvant du groupe, mais aussi comme son album le plus metal et le plus groovy. À travers ce nouvel opus, Lionheart nous balance un mélange de hardcore authentique et de sonorité presque heavy, soutenu par le chant ravageur de Bob Watson, qui scande ses lyrics avec ferveur et conviction. C'est cinglant, c'est efficace, ça promet des lives chaud bouillants. D'ailleurs, à ce sujet, le combo, il est actuellement en pleine tournée européenne. Ils ont fait escale chez nous pas plus tard que le week-end dernier, avec une date à Lyon et une date à Paris. Là, je crois qu'ils sont en Allemagne en ce moment. On les écoute tout de suite, les Lionheart, avec un extrait de ce Valley of Death. Le titre que je vous propose, c'est l'excellent Born Feet First.
Still, 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 still
C'était Lionheart à l'instant, groupe de hardcore californien avec un extrait de leur nouvel album Valley of Dice qui paraît aujourd'hui. Et le titre qu'on vient d'écouter, eh bien, c'est Born Feet First, né les pieds d'abord. Alors ça fait pas du bien à la personne qui donne naissance et c'est en plus dangereux pour le bébé, mais ça donne un titre ravageur pour le groupe Lionheart. On va quitter les terres californienne pour revenir en France et d'ailleurs la suite de l'émission va être largement consacrée à notre pays qui propose une scène métal mais vraiment très très belle. Nous aussi en France on sait faire du métal, on sait faire un métal varié, intéressant et on a des super groupes comme par exemple le groupe Alceste qui a sorti le 25 octobre son nouvel album qui s'appelle Spiritual Instinct. Je l'ai prononcé mais alors vraiment très très mal, je suis désolée, je parle très mal anglais, je m'en excuse. Donc Alceste, concentrons-nous plutôt sur ce groupe. Alors à l'origine c'est un groupe qui nous vient de Bagnols-sur-Cèze qui a été fondé en 2000 et si aujourd'hui Alceste évolue sous la forme d'un duo, au départ le projet était un one man band qui a été créé par le multi-instrumentiste Neige. Son compère le batteur Winterhalter, il va le rejoindre en effet qu'en 2009, donc il va être quelques années tout seul, Neige, pour ce projet Alceste. Musicalement parlant, les débuts d'Alceste, ils vont s'inscrire purement dans l'esthétique black metal, mais le son créé par Neige puis par Winterhalter va beaucoup évoluer au fil des années. Aujourd'hui, on peut dire que la musique du duo se situe à la croisée entre post-rock, shoegazing rock et black metal. Et on peut aussi dire qu'Alceste a créé un univers musical extrêmement singulier qui a lui-même depuis influencé d'autres artistes à travers le monde. Alors en 2007, c'est le premier album hein, du groupe, enfin, du duo, ça s'appelle Souvenir d'un autre monde. Alors celui-là, Neige, il l'a enregistré tout seul, donc en tant que one man band. C'est d'ailleurs ce disque-là, il va marquer une première rupture au niveau du son, puisque du black metal des débuts, Neige ne va conserver dans ce premier opus que quelques éléments, et il se concentre désormais surtout sur des influences post-rock, shoegazing, celles que j'évoquais il y a quelques instants. Alors après avoir intégré le batteur Winterhalter, Alceste va sortir Écaille de Lune en 2009, qui va devenir son album de référence. C'est un album qui sera suivi par Les Voyages de l'âme en 2012, puis par Shelter en 2014. Shelter qui marque une nouvelle rupture assez radicale hein, avec ses prédécesseurs, puisqu'il s'oriente vers un style influencé très rock indé, donc encore plus shoegazing qu'avant, et c'est même un peu popisant par moments. Et puis enfin, en 2016, Alceste a de nouveau frappé très fort avec le très remarqué concept album Kodama, qui a résonné jusque dans les oreilles de Robert Smith, puisque ce dernier a invité Alceste à se produire au Meldon Festival en 2018, festival britannique dont cette année-là, la tête d'affiche, eh bien, c'était justement The Cure. Donc voilà, jouer aux côtés de The Cure, être invité par Robert Smith, c'est quand même un sacré honneur. Alors, il faut d'ailleurs souligner à ce propos que si Alceste jouit d'une réputation grandissante en France, c'est bien à l'étranger hein, que son succès est le plus considérable. Ils se sont produits en Europe, en Asie, en Australie et même aux États-Unis, où un des fans du duo français se nomme Matt Ify. Matt Ify qui est quand même le chanteur-guitariste de Trivium, donc c'est pas n'importe qui, pour vous dire un peu le poids du duo en dehors de nos frontières. Et ce succès qui rayonne à l'étranger eh bien, a permis à Alceste de signer avec le label Nuclear Blast, qui d'ailleurs ne compte que très peu de formations hexagonales, hein, ça aussi faut le souligner. C'est donc sous les couleurs de la prestigieuse écurie allemande qui est sortie fin octobre Spiritual Instinct, un sixième album qui est le fruit d'une longue et intensive période de travail au studio Drudenhaus, ça se situe à Nantes, et qui nous entraîne dans une atmosphère plus sombre, mais toujours aussi onirique et spirituelle, qui au fil des morceaux eh bien, nous fait parcourir des paysages sonores sublimes, profonds. Spiritual Instinct nous offre un mélange unique de post-black metal, avec des mélodies douces, sombres et rugueuses à la fois, et ça c'est le magazine My Rock qui le dit, et je suis tout à fait d'accord avec eux, ça résume parfaitement cette nouvelle pièce maîtresse du duo Alceste, dont voici un extrait avec le titre « Saphir ». We'll be right back. C'était Alceste à l'instant avec un extrait du nouvel album Spiritual Instinct paru le 25 octobre et on vient d'écouter le titre Saphir, un très très beau morceau et c'est d'ailleurs un très bel album que je vous conseille. Et bien si vous n'avez pas peur de ce mélange avec le post-rock, avec le shoegazing, avec le post-metal aussi, c'est vraiment super bien foutu. Très très bon duo formé par Neige et par Winter Alter que ce duo Alceste. À découvrir donc absolument. On reste en France et on va maintenant s'intéresser à un live paru eh bien le même jour, hein, le 25 octobre me semble-t-il, ou le 24, je sais plus, enfin peu importe, on s'en fiche. J'en profite pour signaler à ce propos qu'en ce moment il y a pas mal de lives qui sortent. Alors j'ai pas envie de faire une émission avec 3-4 lives à la fois, donc j'en mettrai un par émission. Ça fera comme ça l'occasion bien de les présenter chacun jusqu'à Noël, puisque là on va être vraiment sur la période des sorties de disques live, donc voilà, on va faire comme ça. Et le premier que j'ai choisi de vous diffuser, c'est un des groupes que j'adore, un de mes groupes chouchou. On parlait la semaine dernière de Lofofora et difficile d'évoquer Lofofora sans évoquer Mass Hysteria quand on a aimé le métal français dans les années 2000. Et Mass Hysteria a sorti donc fin octobre le live au Hellfest, puisque le groupe s'y est produit cette année en 2019. Alors donc Mass Hysteria, groupe formé en 93 à Paris, créé autour notamment du frontman Mustapha Kelaï, que tout le monde surnomme Mousse, qui en plus de posséder un charisme immense, eh bien est une des plus belles plumes de la scène rock metal française, au même titre que Renaud justement de Lofofora dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi que Kemar de No One Is Innocent. Et pour le reste du line-up de Mass Hysteria, eh bien à l'heure actuelle il se compose de Yann Orto à la guitare et Raphaël Mercier à la batterie, qui sont présents presque depuis le début, et puis de Fred Duquesne, Lex Owacha à la guitare et de Jamie Ryan à la basse. Alors le groupe Mass Hysteria, il explose en pleine vague néo-métal, période durant laquelle la scène métal française va connaître une effervescence sans pareil, et ça va donner naissance à ce qu'on va appeler, alors un terme détestable qui s'appelle la Frenchcore. Alors ça c'est une étiquette qui est fourre-tout, qu'on va coller à toutes les jeunes formations qui vont révolutionner à ce moment-là le métal made in France. Mais alors dedans vous trouvez vraiment de tous les styles, et pour ce qui est de Mass Hysteria, eux au départ ils évoluent dans un style métal indus et fusion, et c'est grâce justement à ce son que le groupe va rapidement devenir un des fers de lance de ce mouvement rock-metal français, ouais, on va dire ça comme ça, avant de connaître bien différentes évolutions, différentes mutations, dont, faut bien le dire, certaines seront un petit peu ratées. Et justement, pour s'en rendre compte de ce qui a fonctionné ou pas, il suffit de jeter un œil sur la discographie du groupe, qui se compose de 9 albums. Alors le premier, c'est le Bien-être et la Paix, c'est en 97, c'est un bon avant-goût de leur album référence qui s'appelle Contradiction, qui lui arrive il y a déjà 20 ans, c'était en 99. Alors cet album là Contradiction, il va créer le phénomène grâce à des titres qui sont devenus mythiques, hein. Par exemple je vais vous citer Furia, il n'y a pas un concert où le groupe joue pas Furia. En 2001, ce sera un nouveau coup de maître pour Mass Hysteria qui va dégainer de cercle en cercle. Alors là c'est un véritable petit bijou qui est produit par l'américain Colin Richardson, c'est un disque qui va connaître un succès gigantesque et qui va amener le combo parisien au sommet de son art. La suite, elle sera un petit peu plus chaotique, puisque alors on va avoir une évolution vers un son plus pop-rock, qui va pas arriver à vraiment convaincre, hein. Les trois albums que sont Mass Hysteria en 2005, Une Somme de Détails en 2007 et Faille en 2009 vont pas faire l'unanimité, mais loin de jeter les armes, eh bien Mass va contre-attaquer avec L'Armée des Ombres en 2012, avec Matière Noire en 2015, deux albums plébiscités qui vont relancer la machine de guerre, une machine de guerre qui va devenir un véritable bulldozer avec le génial Maniac qui est arrivé en 2018, qui est l'œuvre la plus sombre, la plus extrême des Parisiens, et qui va être suivie d'une tournée triomphale, qui d'ailleurs n'est pas terminée, loin de là, il y a encore tout plein de dates, une tournée qui s'est arrêtée au Hellfest en juin dernier, où le groupe a enflammé la Main Stage 2 devant 60 000 spectateurs, et à l'occasion du plus gros concert de sa carrière, eh bien Mass Hysteria a interprété une setlist en forme de best-of. Ils ont présenté aussi un show spectaculaire digne des plus grands noms du genre, avec des effets pyrotechniques, des animations projetées sur des écrans géants, un jeu de lumière impressionnant, une prestation hors norme du combo qui a clairement marqué les esprits, et c'est donc tout naturellement que Massisteria a choisi d'immortaliser ce moment incroyable avec un album live, le cinquième de sa carrière. C'est ce fameux Hellfest Live 2019 qui nous est présenté avec un mixage puissant et percutant qui est signé Fred Duquesne. Alors avant d'en écouter un instant, juste je voulais vous signaler que si vous avez envie de voir la prestation de Mass au Hellfest, eh bien elle est disponible sur internet grâce à Arte Concert. Voilà, tout est dit, on écoute le titre Nerf de Bœuf, c'est un extrait de Maniac mais c'est en live au Hellfest en 2019. Tout de suite, Mass Hysteria.
Les furieuses, les furieux, Nerf de Bœuf. Les furieuses, les furieux, Nerf de Bœuf. Tournez. Et si on tourne en rond, c'est pour écraser les démons. Si on tourne en rond, pour écraser les démons. Où est-ce que vous êtes prêts? Tournez, tournez. Circle Pit, Hellfest 2019. Qu'est-ce qu'il y a? Mass Hysteria. Vous êtes filmés. Ma couleur d'une face, celle des dieux. Plus d'intelligence dans un atome que dans toutes les guerres données. Au nom des droits de l'homme, tout le monde, jusqu'un bouddhiste en pleine mutation. La bloc positive en passion. Jusqu'au bouddhiste en pleine mutation. On te choque en action. Tournez. Ravitailleur de bonnes paroles, massif persistant. Bougez les dormeurs, les hésitants. Public impatient, musique douce, agressive. Le vacarme des enfants sont nos armes de reconstruction massive. Jusqu'au bouddhiste en pleine mutation. Un bloc positif par passion. Nous sommes jusqu'au bouddhiste en pleine mutation. On te choque en action. Tournez, tournez. Est-ce que vous êtes prêts? Partez. Tournez. Et si on tourne en rond, c'est pour écraser les démons. Plus vite.
Par passion.
Mass Hysteria au Hellfest, un extrait de Hellfest Live 2019 avec le titre Nerf de Bœuf. Voilà un concert qui m'avait l'air gigantesque. J'en ai vu quelques extraits sur internet, je vais aller regarder le concert dans son intégralité. Et si vous aimez comme moi Mass Hysteria, bah allez-y, hein, c'est disponible sur YouTube tout simplement ou sur Arte Concert. Et l'album est également un pur moment de bonheur. Avant de retrouver Emmanuel Jessua du groupe Hypnose pour nous présenter le nouvel album du groupe qui s'appelle Distant Dark Source, qui va sortir vendredi prochain, le 22 novembre, je vais juste vous faire une petite présentation du groupe qui nous vient de Montpellier, qui existe depuis 2003. Il a justement été créé autour d'Emmanuel Jessua, qui fait également de la vidéo, faut le savoir. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Manu, il a longtemps vécu en Amérique du Sud, ce qui est un détail capital pour comprendre un petit peu la discographie d'Hypnose et en particulier le nouvel album. Alors si sinon, le groupe évolue sous forme de quartet qui est composé également, donc outre Manu, de Jonathan Moroy à la guitare, Cédric Page dit Gredin à la basse et Théo Beg à la batterie. Et pour ce qui est du style, on est sur un métal avant-gardiste qui est agrémenté de nombreuses références au cinéma et à la littérature. Hypnose qualifie en fait sa musique de métal cinématique, mais on va lui demander de nous préciser un petit peu tout ça pendant l'interview. Côté discographie, eh bien, il y a eu en tout premier l'album des deux l'une et l'autre. En 2007, il y a eu Acid Mist Tomorrow en 2012, Shores of the Abstract Line en 2016. Il y a eu ensuite Alba, les ombres errantes en 2018, qui est un album à la fois acoustique et à la fois la bande originale du film du même nom qui a été réalisé par Emmanuel Jessua. Et donc Distant Dark Source, cinquième album du groupe, qui explore en profondeur l'environnement imaginaire et philosophique que les quatre premiers albums avaient progressivement révélé. C'est un album qui a été encore composé et écrit par Emmanuel Jessua, et qui est la deuxième partie d'un diptyque dont le centre de l'histoire est la recherche imaginaire de cette source fantomatique qui abrite les âmes perdues dans un lieu hostile qui est un lac asséché en Bolivie. Alors comme chaque album d'Hypnose, c'est un voyage intérieur à destination des fantômes du passé. Voyage qui avait commencé avec le premier album et dont les étapes furent marquées par chaque autre album jusqu'à Alba, l'album acoustique. Donc Distant Dark Source, il est dans la continuité de ce cheminement. Il est encore plus violent, cru, aride, mais il est aussi encore plus poétique et lyrique. Donc avant de retrouver Manu pour nous le présenter plus en détail, ce nouvel opus, eh bien je vous propose d'en écouter un extrait avec le titre d'ouverture On the Dry Lake, alors dans une version malheureusement écourtée parce que le morceau dure 12 minutes, donc c'est trop long, mais vous l'écouterez après vous dans son intégralité. On écoute Hypnose.
Je me trompe peut-être.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute, vous vous trompez.
J'en ai assez de tuer. J'en ai assez de donner la mort.
Le mystère, c'est mystère. Les dieux possèdent leurs dieux, nous avons les nôtres, ils ont les leurs. C'est ce qui s'appelle l'infini. Vous voudriez que cette nuit s'achève sans mort?
Eh bien oui. Oui. Je tremble malgré l'heure qu'il passe encore quelqu'un sur cette route.
Vous devenez sensible.
Cela me regarde.
Ne vous fâchez pas.
Pourquoi toujours agir sans but?
Et pensez-vous donc de vous souvenir que ces victimes qui émeuvent la figure de jeune fille que vous avez prise ne sont autre chose que zéro essuyé sur une ardoise, même si chacun de ces zéros était une bouche ouverte, criant au secours.
C'est possible. Ce n'est pas répondre.
Je répondrai que la logique nous oblige pour apparaître aux hommes à prendre l'aspect sous lequel ils nous représentent. Sinon, ils ne verraient que du vide.
Mais ici, nos calculs de Dieu nous échappent. Ici, nous tuons. Ici, les morts meurent. Ici, je tue.
Tais-toi. On vient.
We'll be right back. tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Si vous nous rejoignez, à l'instant, c'était le titre On the Dry Lake du groupe Hypnose. Alors, il s'agit d'un extrait de leur nouvel album qui s'appelle A Distant Dark Source, qui va paraître le 22 novembre chez Pelagic Records. Et pour nous le présenter, eh bien, j'accueille Manu qui est chanteur-guitariste. Salut Manu.
Salut.
Alors, pour commencer, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance. Donc, Hypnose, c'est un groupe qui a déjà une belle carrière, puisqu'il existe depuis plus de 15 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire du groupe et puis nous dire un peu quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui?
Le groupe a été monté en 2003, on a commencé à tourner, le groupe tel qu'il est, on a commencé à tourner autour de 2004, on va dire.
D'accord.
Là, on sort notre cinquième album, donc il y a eu quatre albums, c'est plutôt métal, donc il y a quatre albums métal et on a fait un album acoustique juste avant celui-ci qui s'appelait Alba.
Ouais.
Dans lequel on faisait un style un peu différent, mais voilà, on fait un cinquième album, on fait un métal un peu particulier, un peu expérimental, ambiant, avec des morceaux très longs, voilà, et donc on est quatre musiciens, formation classique, deux guitares, basse, batterie et moi au chant. Voilà.
Et je crois que le line-up a très peu changé hein, depuis le début.
Il y a eu deux changements, il y a eu le premier batteur qui a été remplacé et le premier guitariste qui a été remplacé par Joe il y a 10 ans, donc depuis environ 5-6 ans, non même plus. Depuis 6 ans, c'est le même line-up, ça bouge pas, ouais.
Ouais, donc une belle stabilité, hein.
Oui.
Alors, vous qualifiez votre musique de métal cinématique. C'est vrai que les références au cinéma, à la littérature sont nombreuses, hein, quand on écoute vos albums. Pour que nos auditeurs se fassent une idée, mais t'as déjà un peu répondu à la question, on peut définir le son d'Hypnose comme étant à la croisée entre métal avant-gardiste, métal prog et post-métal?
Oui. J'ai toujours du mal à mettre une étiquette.
Ouais.
On l'a vu quand même dans pas mal d'endroits différents dans chaque album. Mais oui, on peut dire ça, mais en tout cas, il y a une volonté de se renouveler, de créer on s'interdit pas des choses, donc on va puiser des fois des éléments dans des styles un peu différents, où on passe d'un passage très calme à un passage très violent. Voilà, c'est un peu le style fait qu'on se nourrit de différentes de choses assez variées, quoi, différentes. Quoi. Mais oui, ça peut être un métal cinématique, parce qu'on a aussi une affection particulière pour les images, on travaille avec des images en live, on utilise beaucoup, on consomme nos albums vraiment comme des films,
ouais.
Des scénarios, on fait dialoguer des samples qui sont issus parfois de films ou d'interviews, donc l'idée c'est vraiment de la manière dont on construit nos albums, c'est vraiment pour essayer d'arriver d'un point A à un point B, qui est vraiment une dramaturgie qui se crée tout au long du disque.
Quoi. Et c'est quoi vos influences musicales à chacun? J'ai l'impression que vous avez quelques affinités avec la musique classique aussi, non?
Moi j'ai une formation, j'ai pas une formation, mais j'ai commencé par faire du piano, et donc forcément j'ai touché pas mal à la musique classique.
D'accord.
Et moi j'écoutais beaucoup de musique classique à l'époque où j'ai commencé à monter l'hypnose, toujours maintenant, mais peut-être moins qu'avant. Et donc les premiers albums qu'on a composés, ils étaient influencés sûrement de près ou de loin par des compositeurs que je pouvais encore écouter à l'époque, comme Mahler, Liszt, Proust, des choses comme ça, qui sont sûrement un peu présentes dans la manière dont on a composé, on a construit notre style au début, ouais.
Ouais.
Et voilà, après on écoute tous des choses assez différentes, mais finalement, moi j'écoute beaucoup d'enfants, pas mal de post-rock, des choses genre Godspeed du Black Emperor, j'écoute beaucoup de musique latine aussi, mais pas la musique latino, ça se fait accompagner, les chanteurs argentins, genre Facundo de Cabral, des choses comme ça. Et après, il y a d'autres membres qui écoutent peut-être plus de métal que moi, par exemple, genre Joe, je sais qu'il écoute du métal, Rodin, il est assez métal, mais en même temps, il écoute aussi de la musique classique. Après, il y a, ouais. Donc, c'est assez varié, quoi, on a tout ça, ce qui ressort du coup dans la composition, c'est aussi ce mélange d'influence qu'on peut avoir chacun, quoi.
Alors, moi, parmi mes derniers gros coups de cœur, il y a le nouvel album de Cult of Luna qui s'appelle A Dawn to Fear. Et en écoutant A Distant Dark Source, votre nouvel album, j'ai trouvé qu'on pouvait un peu rapprocher ces deux disques sur pas mal d'égards. D'abord, sur votre façon de jouer avec les atmosphères, hein, comme tu nous disais, c'est tantôt violent, tantôt calme, aérien. Il y a aussi ce sentiment de mélancolie qui domine tout au long de l'album. Et puis, bien sûr, les structures des morceaux, la structure de l'album qui est vraiment d'une homogénéité impressionnante. Est-ce que Cult of Luna, c'est un groupe qui vous parle ou pas spécialement?
Moi je connais peu. Enfin, je connais, j'ai écouté les chansons, mais je ne suis pas un... je peux pas citer comme ça des morceaux en particulier. Je sais que d'autres membres du groupe écoutent ce groupe aussi.
Ouais.
Moi, j'aime bien l'atmosphère de Cult of Luna, du peu que je connais. J'aime bien Steve Up, il y a quelque chose de très lourd, de très pesant, assez sombre, qui me parle pas mal dans... Et qui, peut-être qu'effectivement, on retrouve dans certains aspects, quand il peut avoir des similitudes avec ce qu'on a pu développer sur un passage du nouvel album. Il y a quelque chose de très lent et de très très assis qui fait que ça fait il y a une intensité que tu ne trouves pas forcément dans d'autres groupes qui moi me parle, mais après je suis pas un grand honneur,
d'accord,
je connais pas bien le dernier album, j'ai écouté le single, donc
ouais.
C'est très beau, d'ailleurs même le clip est très beau d'ailleurs,
ouais, et magnifique le clip, hein.
Et mais le reste de l'album je l'ai pas écouté encore.
D'accord. Alors, on va revenir à votre album, hein, puisque c'est bien sûr ça qui nous intéresse, Distant Dark Source. Il a pour particularité d'être la seconde partie d'un diptyque. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de commencer par publier la seconde partie?
À la base, cet album-là, il était construit pour être un album à part entière.
D'accord.
Et en fait, nous, on compose en fait en général la musique avant d'écrire les textes.
Ok.
Donc il y a des bases musicales et en écrivant les textes autour de cette, en développant l'histoire que j'allais raconter dans l'album. Enfin, on sait déjà quelle va être la thématique quand on commence à composer les morceaux, mais les paroles en elles-mêmes se déploient un peu plus tard, quoi. Donc du coup, en écrivant ces textes-là, je me suis dit que j'avais envie de raconter ce qui se passait avant que l'album commence.
D'accord.
Et donc du coup, là, quand j'ai commencé à imaginer une première partie qui mettrait aussi en lumière des choses qu'on peut entendre sur cet album-là, mais qui, si on, en écoutant la première partie, nous ferait réinterpréter certaines paroles, certains dialogues qu'on peut avoir dans cet album-là. Donc, c'était pour ça qu'on a décidé de sortir celui-là en premier, et parce qu'il y a vraiment un point final, quoi. C'est la fin de quelque chose, on ne peut pas avoir quelque chose d'autre après celui-là.
D'accord. Et cette première partie, elle est déjà enregistrée, elle a déjà une date
Non.
Non,
c'est
d'accord.
C'est composé en partie, enfin, même bien composé. Mais on va trop en parler encore parce que c'est pas enregistré, mais voilà, c'est en fait
okay.
Ça fait partie d'un l'idée, en tout cas oui, la base musicale est déjà là, quoi.
D'accord. Alors justement, venons-en à l'histoire de A Distant Dark Source. C'est un concept album qui nous transporte en Bolivie, là où se trouvait il y a fort longtemps le lac Toka. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire que raconte l'album?
Oui. Alors, en fait, c'est pas vraiment cette histoire qui m'a servi un peu d'inspiration. Enfin, c'était le point de départ, en tout cas, de la construction de l'album.
D'accord.
En fait, vu que c'est un endroit où je suis souvent allé, c'est un endroit notamment où on a tourné une partie du film Alba, qu'on a sorti l'année dernière. C'est dans le lac Titano bolivien, c'est très, très aride, très hostile, très sec. Et en voyageant là-bas pour faire des repérages pour un projet que j'ai, moi, de documentaire là-bas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs lacs. Il y a le lac Serra du Uni, il y a un lac qui a récemment disparu. Du coup, je me suis interrogé un peu sur la question de la disparition à cet endroit-là. Et j'ai appris, donc après, en me renseignant un peu, qu'il y avait, il y a 14 000 ans, il y avait toute cette région, c'était un lac, c'était le lac d'eau salée. Il s'est évaporé et qu'il a laissé derrière lui ces trois lacs. Dont un a encore disparu récemment.
D'accord.
Et du coup, ça m'a commencé à me nourrir un peu l'imaginaire, et je me suis imaginé que je pourrais faire un album de l'espace des États-Unis, que la nuit, il y a l'eau de ce lac revient, et avec l'eau de ce lac reviennent aussi les spectres des gens qui ont habité les rives de ce lac avant, voilà. Donc en fait l'idée c'est de... c'est pas forcément ce lac-là, c'est le lac-là qui m'a inspiré. L'idée c'est que la bonne se passe dans une nuit, et que c'est un personnage qui revient à la nuit pour essayer de trouver parmi ses revenants quelqu'un qui l'a même maître aimé, et qui va devoir toute cette nuit-là de le retrouver à l'intérieur de ses revenants.
Voilà. D'accord.
Ça se passe une nuit, ça commence au coucher du soleil, ça se lève, ça finit à l'aube.
La mort, c'est quelque chose qui est très présent à travers vos albums.
Ça même les albums sont assez sombres, beaucoup plus longs que les autres. Mais il y a quelque chose de... C'est pas non plus un album pessimiste.
Non.
C'est un album qui est assez... Moi, je cherche à ce soit assez lumineux et assez... c'est quand même un album très... Il y a beaucoup de mélancolie, mais c'est pas forcément sombre. Enfin, ça l'est, dans un morceau, comme le dernier, par exemple. Mais sinon, il y a une espèce d'atmosphère mélancolique et assez nostalgique qui emprunt, qu'on a développé dans quasiment tout ça. On développe en tout cas depuis le début. Et donc, il nous amène vers des thématiques forcément qui sont liées à la disparition, à la mort, à la mémoire. Voilà. Donc, c'est des thématiques qu'on développe souvent sur les albums. Ça sert de ligne directrice sur tout ça.
Et justement, c'est un point qui m'a beaucoup plu, ça, c'est ce fait que vous jouiez beaucoup avec le sombre et le lumineux hein, dans l'album. Et justement, je me demandais, parce que tout à l'heure, t'évoquais Alba, les ombres errantes, donc qui était à la fois un album acoustique et puis la bande-son du film du même nom que tu as réalisé. Est-ce que cette double expérience de film et de disque acoustique, ça a nourri la composition et l'enregistrement de ce nouvel album ?
Mais il y a forcément... C'est forcément quelque chose de ce qu'on a pu composer sur la zone acoustique, l'utilisation des manières dont on a des harmonies ou les sonorités qu'on a pu aller chercher pour mettre en musique ce film. Puis je pense qu'on en a forcément gardé des choses. Donc il y a dans les parties claires peut-être quelque chose qui est nourri aussi de ce précédent album. Mais quelque chose qu'on avait déjà aussi dans les inverses aussi qu'on pouvait avoir dans les autres albums aussi avant, que dont Alba s'est inspiré, mais qui rend toujours quelque chose de ce qui. Plus chaque album, il y a toujours quelque chose de celui qui précède. Et le fait d'avoir fait un film après, ça, c'est pas vraiment présent là directement comme ça dans cet album-là, même si moi j'aurais la volonté de mettre en image tout l'album si je voulais. Mais en tout cas, c'est une expérience, l'album, c'est une expérience qu'à l'avenir, en tout cas, on aimerait bien reconduire si on en avait l'occasion, parce que c'est un projet qui a été assez passionnant à monter, quoi.
Justement, tu parlais de mise en image. Le 1er octobre, vous avez sorti le premier clip extrait de A Distant Dark Source qui met en image les trois parties de la pièce musicale du même titre. Et alors, c'est carrément un court-métrage de 18 minutes et c'est toi qui l'as réalisé. Hein.
Oui, c'est ça. C'est moi qui réalise les clips. Ouais. On voulait absolument que ce soit le premier morceau à sortir, celui-là.
Ouais.
Et donc, c'était le morceau le plus long de l'album. Donc, on avait pas été hors de question qu'on coupe le morceau ou quoi, parce que sinon, ça allait perdre son sens. Mais du coup, on s'est retrouvé à faire un clip de 10 minutes.
En tout cas, un très très beau clip. Moi, je conseille à tous nos auditeurs d'aller le voir, soit en passant par votre page Facebook, soit directement sur YouTube. Et c'est magnifique. Hein. Vraiment, les paysages, c'est vraiment à couper le souffle. Quoi.
Ah ben, merci beaucoup.
Alors donc une partie visuelle primordiale hein, chez Hypnose, comme tu nous l'as dit, donc entre les clips, la scène, et puis il y a l'artwork aussi de ce nouvel album qui lui aussi est très très beau. Qui en est l'auteur de cet artwork?
Alors c'est Yvan Bertin et son équipe. C'est quelqu'un qui on travaille depuis la filmiste sur le pas d'un peu depuis la filmiste, qui a commencé à faire les visuels depuis Shorts, donc qui a fait les visuels de Shorts, et donc celui-là aussi.
D'accord.
Qui avait travaillé avec nous sur des clips live du groupe, Again ou West Shore, des morceaux comme ça. C'est un ami aussi avec qui je travaille, moi, à Varier, sur d'autres projets. Et nous, c'est qu'on aime bien travailler avec un cercle de gens qui sont assez proches et à qui on peut faire entièrement confiance. Donc je sais que par exemple Yvan, j'envoie un morceau, je n'ai même pas forcément besoin en général je lui donne quelques éléments visuels, donc de photos que je lui prends, et après lui il me propose une lecture de ce qu'il entend en proposant ses projets. Donc il a fait ça sur Alba, à chaque fois on est très content de ce qu'il nous propose, donc là c'est lui qui a fait ses projets.
Ok, alors cet album il va sortir, on l'a déjà dit, le 22 novembre, j'imagine que vous avez hâte de le défendre sur scène. Est-ce que vous avez déjà quelques dates de calé?
Oui, bien sûr, ça va être annoncé. Enfin, il y a une première partie qui est annoncée dans quelques jours, là.
D'accord.
Ça va tourner, on l'espère en tout cas, le plus longtemps possible, donc au moins une bonne année. Et ça commence donc début janvier. Et ça, on va passer en quelques un peu en Europe, ça passe un peu à l'étranger, et puis ça va passer en France. Pour le moment, ce qui est annoncé, c'est Nantes, Nancy, il y a la date à Paris, dans le Nord, il y a la date à Nîmes. Donc, mais il y a deux qui vont être annoncés bientôt.
D'accord.
Après, ça fait un moment qu'on n'a pas joué en plus en formule métal. Donc on a vraiment hâte de pouvoir revenir sur scène.
Bon, en tout cas, toutes ces dates, on pourra les retrouver bien sûr sur votre site internet, sur les réseaux sociaux aussi.
En suivant sur Instagram ou sur Facebook, là, il y aura toutes les infos de toute façon qui seront dispo. Ouais.
On peut vous suivre sans problème. Eh ben, merci Manu de nous avoir présenté votre nouvel album. On va le rappeler une fois, il s'intitule A Distant Dark Source. Il va paraître le 22 novembre chez Pelagic Records. Merci encore.
Merci à toi.
Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on se quitte en musique avec un nouvel extrait du disque. Ça te va?
Avec plaisir.
Eh ben, écoute, j'ai choisi A Distant Dark Source, mais on va passer avec la partie 2, parce que malheureusement, on va être un peu pris par le temps. Mais j'invite bien sûr tous les auditeurs à ensuite aller écouter la pièce entière, puisque bon, c'est un peu frustrant de devoir la couper, hein, je t'avoue. Ouais. Merci encore et à une prochaine interview, alors.
Oui, carrément.
Bon courage. Salut.
Merci. Salut.
Distant Dark Source, extrait de l'album du même nom. Alors là, on vient d'écouter un tout petit extrait de cette pièce qu'on trouve en trois parties sur le CD de Hypnose. Alors c'est vrai que là on a été obligé de couper vraiment trop la tailler cette pièce, donc j'essaierai de vous la rediffuser dans son intégralité dans une prochaine émission, parce que ça vaut vraiment le coup d'aller écouter. En tout cas, ça sort la semaine prochaine, le 22 novembre, chez Pelagic Records, Distant Dark Source, album du groupe Hypnose. Allez, il est maintenant le moment de clore cette émission et on va passer pour ça à la rubrique Sortez Cover. Alors la semaine dernière, j'ai surfé sur l'actu et sur l'annonce de la reformation de Rage Against the Machine pour diffuser une version punk de leur tube Killing in the Name par un jeune groupe australien qui s'appelle The Kids. Aujourd'hui, on inverse les rôles puisqu'on va certes écouter de nouveau du Rage, mais cette fois-ci, c'est eux qui vont s'adonner à l'exercice de la cover. Arul Combo a excellé avec Renegades, qui est un album constitué exclusivement de reprises et aussi qui est son ultime album. Alors inutile de vous préciser que le choix du morceau parmi les 12 qui composent le disque a été cornélien. J'ai finalement opté pour The Ghost of Tom Joad, qui est initialement une chanson de Bruce Springsteen. Mais avant de vous en dire plus, quelques mots sur l'album Renegades. Il a été enregistré entre 95 et 96, mais il n'est paru que le 5 décembre 2000, au moment où le chanteur Zach de la Rocha a annoncé son départ et sonné la fin du groupe. Le disque, dont l'artwork s'inspire de la statue Love de Robert Indian, nous entraîne dans l'univers musical qui a contribué à forger le son de Rage Against the Machine, avec des reprises d'artistes hip-hop, rock, punk, funk, folk, new wave. Ça va de Cypress Hill, Rolling Stone, en passant par Devo ou les Stooges. Et ce qui est absolument incroyable, c'est la façon dont Rage s'est approprié chaque morceau pour en faire une version totalement inédite par rapport à la version d'origine. Il n'y a pas à dire, Rage Against the Machine, c'est vraiment des génies. Alors vous allez d'ailleurs l'entendre dans cette version de The Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen, qui est une chanson parue le 21 novembre 95, simultanément en version single et sur l'album du même nom. Alors si vous êtes amateur de littérature, ça vous aura pas échappé, hein, le personnage de Tom Joad, c'est le héros du roman Les Raisins de la Colère de l'auteur américain John Steinbeck. Outre le roman, la chanson s'inspire également de The Ballad of Tom Joad, une chanson de Woody Guthrie, inspirée, elle, de l'adaptation ciné du bouquin par John Ford. Springfield, en fait, il faut savoir qu'il avait lu le livre, regardé le film, écouté la chanson avant d'écrire son morceau, et ben à travers lequel il fait un parallèle finalement entre le contexte social des années 90 aux USA et celui des années 30 durant lesquelles se déroule le roman. Enfin, on peut signaler, pour faire le lien avec Rage Against the Machine, que Bruce Springsteen a en 2013 invité le guitariste Tom Morello à réenregistrer cette chanson, qui figure d'ailleurs ce réenregistrement sur l'album High Hopes, paru en 2014. Mais assez parlé, il est temps d'écouter The Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen, revu et corrigé par Rage Against the Machine sur l'album Renegades. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. Bon week-end, salut à tous!
of Tom Jones.